Cours d'éthique par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 20 décembre 89.
Il y a une question sur la justice. Vous nous avez parlé la dernière fois de la justice. Du latin, voyez. Il y a ius, justitia. Il faudrait dire droit et la droiture. Le français est chaotique. Parce que ius, ça se traduit droit. C'est très difficile de traduire autrement, je crois. Et vous dites justice. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait particulier à la justice, comparativement aux autres vertus cardinales? C'est que la justice est tournée en premier lieu vers l'autre. Ce qui montre bien que l'éthique personnelle n'est pas l'éthique d'un solitaire. premier lieu le droit de l'autre, pas mon droit. Le droit de l'autre, le jus. On va essayer de préciser ensuite ce que c'est le droit. Saint Thomas précise tout de suite, et c'est intéressant, de montrer que le droit est une notion analogique. Il y a le droit, le jus naturel. Il y a le droit positif. Il y a le droit divin. Et le droit divin va impliquer deux aspects différents. Le droit divin qui vient confirmer, expliciter le droit naturel. Le Créateur, dans sa sagesse. Et le droit divin qui va se fonder sur la volonté du Père dans son gouvernement, le droit divin qui nous donne la grâce, qui va se fonder sur la grâce, le droit divin surnaturel qui est divin aussi, mais analogue. Le droit divin est comme un droit positif, quelque chose qui vient s'ajouter. Puis alors, ensuite, il y a le droit, le jus gentium. Les juristes savent bien ce que c'est. Le droit des gentils. Ça, c'est romain, n'est-ce pas ? Le droit des gens, disons plutôt, pardon. Le droit des gens. À noter. Puis après, il donne le droit des gens. Saint Thomas va préciser d'autres droits particuliers, le jus du Père à l'égard de ses fils, des enfants. Le droit de l'époux à l'égard de l'épouse. Il faut y ajouter le droit, parce qu'Aristote en parle, le droit de l'ami à l'égard de son ami. Ius amicabilis. Et il ajoute également, parallèlement au Père, le droit du maître à l'égard de l'esclave. Ça, c'est Aristote pur. C'est intéressant, oui. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuf modalités du droit, du jus. Il y en a peut-être d'autres. Je donne ce que saint Thomas donne. Il ne parle pas du droit de l'ami. Je peux l'ajouter. Parce que Aristote te donne le droit amicabilis. Et ce qui montre que la notion du droit est une notion analogique. On voit très bien les relations entre le droit naturel et le droit positif. Le droit naturel, ah oui, c'est celui qui se fonde sur la nature. Le droit droit positif, c'est celui qui s'ajoute et qui vient préciser. Le droit divin, c'est celui qui fonde le droit naturel. Dieu créateur et qui, dans sa sagesse, ordonne les choses. Et le droit de Dieu Père, qui vient s'ajouter à la nature comme un droit surnaturel, qui se fonde sur la grâce. Le droit des gentils, philosophiquement parlant, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est le patrimoine humain. Savoir se reposer pour l'Europe, c'est sûr. Il y a un droit particulier, tous ces États d'Europe, ils vont s'unir tout d'un coup. Je ne sais pas comment, ça ne fait rien. Ah, il y a quelque chose de commun. Le droit des gens. Le droit du père, c'est un droit naturel. Mais c'est dans le droit naturel quelque chose de particulier, puisque c'est le premier droit naturel. Le droit du maître à l'égard de l'esclave, c'est encore un droit naturel. À l'égard de la famille, en comprenant bien ce qu'Aristote dit sur l'esclave, et ce que saint Thomas reprend. L'esclave est comme un instrument. Mais au niveau moral, c'est que l'esclave, mettez entre parenthèses, hein, puisque pour nous, c'est celui qui est incapable de se gouverner seul. On dirait aujourd'hui, si vous voulez, puisque maintenant tout homme est capable de se gouverner lui-même, à part les handicapés, alors mettez l'handicapé. Le droit du maître à l'égard de l'handicapé. À l'égard de celui qui est incapable de se mener lui-même. Quel est le droit du médecin dans un hôpital psychiatrique? Du médecin, du maître. Vous pouvez mettre du médecin. Ça se pose. Oui. Et puis alors vous pourriez ajouter le droit du patron. À l'égard de l'ouvrier. Vous voyez la différence, c'est que le droit du maître à l'égard de l'esclave est au niveau moral. Le droit du patron à l'égard de l'ouvrier, c'est au niveau du facere, au niveau du travail. Le droit du médecin à l'égard de son malade, c'est au niveau de l'agere. Donc, c'est la même chose qu'ici, le maître et l'esclave. Parce que le malade est incapable, s'il est très malade, de se gouverner lui-même. Et c'est le médecin qui en prend la responsabilité. Du côté de la prudence. Quelqu'un qui est handicapé, mentalement, ben il faut bien que quelqu'un en prenne la responsabilité. Ça, c'est le droit du maître à l'égard de l'esclave. Puisque Aristote refuse l'esclavage qui provient de la guerre, donc qui provient tout simplement de la force. Aristote est contre l'esclavage qui provient de la guerre. On a gagné la guerre, on met tous ceux qui sont vaincus sous la soumission du vainqueur. Ça, c'est contraire à la nature. Tandis qu'au contraire, le droit du maître à l'égard de l'esclave, c'est quelqu'un qui est incapable de se gouverner lui-même. Son bien, c'est d'être sous le gouvernement de quelqu'un qui est capable de l'aider. Donc c'est au niveau éthique, au niveau moral. C'est très très important ça. Le droit de l'époux et de l'épouse. Et puis le droit de l'ami. Alors c'est très important de voir ça. Et c'est très intéressant, vous voyez. Ça nous aide à mieux connaître. C'est pour ça que je mets en appendice pour nous. C'est de la théologie. Mais attention, tout ça peut être philosophique. tout ça peut être philosophique. Ici, théologie naturelle. Droit naturel, droit positif, droit des gentils, droit, c'est politique. Philosophie politique. Et ici aussi, philosophie politique. Parce que c'est la loi. on supprime ça. Et c'est curieux. Dans le Rwanda, je vous affirme, c'est très curieux. J'ai plusieurs fois pris gens des retraites là-bas. Ça m'a beaucoup frappé. Il y a un terrain réservé pour les animaux spécialement. Alors là, doublement, les animaux sont proches. Mais les lions, c'est plus difficile. On n'ose pas encore dire, vous pouvez aller là-bas, il y aura des lions, ne vous inquiétez pas, ils sont bien. Non, non, on n'ose pas dire ça. On dit, allez-y en auto. Alors là, il y a moins de danger. Vous avez un parapluie qui vous garde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est pas commode à définir. Vous voyez que le droit se diversifie selon ses fondements. Ça, on voit tout de suite. Quand j'essaie de comprendre la diversité de ces droits, je vois tout de suite que c'est le fondement. La nature raisonnable, rationnelle, le droit naturel. La loi, l'autorité de celui qui gouverne. Le droit des gentils, c'est un patrimoine de l'humanité, le droit des gens. Le droit du père, c'est la génération. Le droit de la mère. Le droit de l'époux, c'est le choix d'amitié. Le droit de l'ami, c'est le choix d'amitié. Le droit du maître, c'est sa prudence, sa qualité de prudence. Le droit du médecin, c'est sa compétence. Donc voyez que ce droit se fonde à des fondements différents. Le droit est une relation. Une relation. Donne autorité à l'égard d'un bien qui est nécessaire à l'épanouissement de l'individu, de la personne. Je crois que c'est ça le droit. Il y a une relation que j'ai à l'égard d'un bien. J'ai le droit à la nourriture, par exemple. C'est un droit naturel. Si vous êtes affamé, vous avez le droit, non pas de descendre à la cuisine et de prendre dans le frigidaire un gâteau, mais vous avez le droit de prendre du pain. Vous êtes affamé. Vous êtes affamé sur la route. Vous avez le droit de vous servir des fruits qui sont là. En faisant attention de ne pas vous faire prendre. Mais vous avez le droit. C'est un droit naturel, la nourriture, à la boisson, un droit naturel. Quand on n'en peut plus, hein, l'extrémité, parce que si vous avez un peu faim au dernier cours, je sens un saucisson de ma poche, j'ai le droit à la nourriture. Non, 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 non. Parce qu'il y a un droit positif supérieur qui est le point de vue de la communauté qui dit à ce moment-là, vous devez suivre un cours. Alors, c'est difficile de suivre un cours en prenant ce saucisson. C'est très difficile. Ça coupe l'appétit, oui, intellectuel. Donc, qu'est-ce que c'est que le droit à la nourriture? C'est parce que ce bien est nécessaire à ma vie, à l'épanouissement de ma vie, à mon développement. Donc, j'ai le droit à cela. Ça repose bien, vous voyez, sur une certaine autorité naturelle, un dominium naturel, à l'égard de tel bien, nécessaire à ma fin. Et le droit positif va préciser ça. Le droit de propriété, par exemple, est-il naturel, n'est-il pas naturel? Relève-t-il du droit législatif, du droit positif ou du droit naturel? Mais c'est une question très difficile, très délicate, et qui sépare complètement toutes les visions politiques. Le droit du père, jusqu'où ça va? Le pater familias, latin, il avait le droit sur la vie de son enfant. À Sparte, l'État avait le faire, de massacrer les pauvres petits chétifs. On va les renvoyer promener. Des infirmes. Il y a un droit qui varie. Le droit du maître à l'égard de l'esclave. Ça varie. C'est un droit positif. Vous voyez, le droit du maître à l'égard de l'esclave. Et Aristote cherche le fondement naturel en montrant que nous avons tous le droit fondamental de pouvoir découvrir notre finalité et d'ordonner les moyens de notre finalité. Or, quand on ne peut pas le faire soi-même, on peut demander à un autre un parrainage. Oui, c'est le droit à un parrainage. Vous avez le droit de demander à quelqu'un de plus intelligent, à plus avancé que vous, de vous aider. Le droit de parrainage, le droit du maître et de l'esclave. Dans ce domaine-là, je suis esclave. Je n'y connais rien. Alors, je te demande un parrainage, oui, qui durera le temps qu'il faudra. Quand l'esclave devenait capable de se diriger, il avait le droit à la libération par rapport à son maître. Et ça existait. Épictète, c'était l'esclave devenu philosophe. Oui, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que le droit ? Eh bien, la justice, c'est un acte juste. Prenons d'abord un acte juste. C'est de respecter le droit de l'autre. Il faut respecter le droit de l'autre. Le droit à la vie. Le droit à l'épanouissement de sa vie. Le droit à la recherche de la vérité. Le droit à une certaine liberté d'expression, de parole. Mais l'acte juste, là c'est très beau, l'acte juste, c'est l'acte qui regarde le droit de l'autre. S'ajuste, saint Thomas fait le jeu de mots du reste, ius. S'ajuster. On s'ajuste à l'autre en respectant son droit. Et on se rectifie à son égard en respectant son droit. Si on ne respecte pas son droit, ou on le domine, on devient tyran. Ou on fait une déviation. On ne s'ajuste pas. Oui, c'est pour ça que la justice, c'est ce qui me donne une certaine droiture d'action. Là, je retrouve juste, jus, justitia, une certaine droiture, un acte droit. On dira, celui-là, il est droit. Pourquoi ? Parce qu'il respecte le droit de l'autre. Et c'est quelque chose de très particulier de respecter le droit de l'autre et d'avoir cette volonté de respecter tous les droits de l'autre. C'est pour ça que la justice va tout de suite se diversifier, vous voyez, dans une attitude diverse selon les différents droits. Le droit naturel, le droit positif, le droit divin, et ainsi de suite. Alors, je crois que c'est cela le propre du droit. C'est que la personne humaine tend vers sa fin. C'est la nature humaine en tant qu'elle est finalisée et en tant qu'elle est capable d'atteindre sa fin, ce qui est bien la personne, qui a donc une certaine domination sur ses opérations. Pour atteindre sa fin. Et pour atteindre sa fin, doit chercher les moyens pour l'atteindre. Et donc, le fondement du droit, c'est la différence qui existe entre l'union affective et l'union effective. s'il n'y avait pas de distance entre l'union affective et l'union effective, il n'y aurait pas de droit. Vous l'auriez tout de suite. Tandis que vous devez atteindre le bien que vous désirez, que vous aimez, et vous ne l'avez pas tout de suite. Il faut donc respecter le droit de la personne qui tend vers sa fin et qui désire atteindre ce bien qu'il ne possède pas. Alors, la justice se fonde sur le droit, donc c'est le droit qu'on faut avoir, qui se fonde sur la dignité de la personne humaine. Il se fonde sur la nature humaine, qui est une nature raisonnable, capable de choisir sa fin. Donc c'est bien la dignité de la personne humaine. C'est un fait. Ça se fonde sur la nature humaine qui existe et sur la personne humaine qui existe. Directement, le fondement, c'est ça. C'est qu'un être humain devient de plus en plus parfait et tend vers le bonheur. Il est fait pour être heureux. L'être humain est fait pour être heureux. Et qu'au point de départ, il est démuni. Et parce qu'il est fait pour être heureux et qu'au point de départ, il est démuni, il a un droit à acquérir ce bonheur. Et ce droit à acquérir ce bonheur, c'est sur ce droit que se fondent tous les autres droits. Donc, ça se fonde sur le fait que la personne humaine n'a pas, au point de départ, sa perfection. Ça, c'est le fondement premier éthique. L'éthique repose sur l'expérience de l'acte humain. Je ne dis pas que l'éthique se fonde, voyez, sur la métaphysique. C'est faux. L'éthique se fonde en dernier lieu sur le fait que notre âme est créée par Dieu. Mais ce n'est pas le fondement direct. C'est pour ça que le droit naturel s'impose à moi. Je le constate. Mais l'ultime justification du droit naturel, je dis bien l'ultime, ce sera dans un jugement de sagesse. À partir de la sagesse, à partir de la sagesse du Créateur. Il faut bien respecter ça. Mais c'est la constatation directe et immédiate que l'homme est fait pour acquérir son bonheur. Il tend vers le bonheur. Il est fait pour ça. Et comme il ne l'a pas tout de suite, il faut qu'il l'acquiert. Et pour l'acquérir, il a un droit à l'acquérir. C'est un droit d'acquisition, si vous voulez. Le droit qui demande de s'expliciter dans telle ou telle activité. Du reste, réfléchissez bien, n'est-ce pas? Quand on, je sais pas, on vous dit telle ou telle chose, « Ah, j'ai le droit de le faire !» Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites « Ah, j'ai le droit de le faire ?» Ça veut dire que votre finalité, vous tendez vers votre finalité et que ce droit des gens, dans quelle mesure peut-il être relativisé par un droit supérieur international? Ou est-ce que nécessairement le droit des gens implique un aspect fédéral, une diversité? Ce que je crois. On doit respecter le fait. Le fait acquis, le droit des gens. L'Asie existe. L'Europe existe. L'Amérique existe. L'Afrique existe. Il y a un droit des gens. Mais alors, dans l'ordre surnaturel, je parle alors ici de la vie religieuse. Et c'est ça, ça conduit à des tas de réflexions très importantes. La vie religieuse, c'est un ordre nouveau qui provient de l'ordre surnaturel, qui ne va pas contre nature. Quelle mesure la vie religieuse va-t-elle être au-dessus des droits des gens? L'Église est catholique. Elle n'est pas fédérale. Vous savez, ça n'a l'air de rien. Quand vous dites que l'Église est catholique, vous affirmez que le droit des gens est relatif à la grâce, est relativisé à la grâce. Vous n'y pensez pas. Quand vous dites je suis catholique, vous êtes au-dessus du droit des gens de l'Europe. Vous êtes au-dessus du droit des gens d'Amérique. C'est pour ça que les Américains ont tellement de peine d'accepter le catholique. Et l'Asie aussi. L'Europe, elle a été formée dès le point de départ chrétienne. Donc le problème est très différent. Mais c'est très important, ça. Le Christ n'est pas européen. Faut toujours dire ça, parce que quand en Afrique, on dit « Ah, vous n'amenez une religion d'Europe ». Pas du tout, c'est la religion du Christ. Il n'est pas européen, ce qui est bon. Ah, tu as manqué quelque chose dans sa sagesse. Hein. Il aurait dû être européen. C'est bien évident. Je n'est pas européen. Mais la sagesse chrétienne a formé l'Europe. Et le patrimoine européen a pris des tas de choses qui ne sont peut-être plus très chrétiennes. Toutes les lois qui sont contraires à l'aspect chrétien sont contre l'Europe. Si l'Europe prenait conscience de ce qu'elle est, elle devrait faire ça. Il devrait y avoir une purification très radicale et ce serait peut-être le salut de l'Europe. Il vient de paraître un livre assez méchant, paraît-il, je ne l'ai pas lu. Le rêve de du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est fait, voyez, par des théologiens qui sont pas très, très, très... pas très catholiques, quoi. C'est intéressant. Et ça continue la lettre des théologiens qui maintenant se met à montrer ça. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. L'Europe va ressoulever tous ces problèmes. Et c'est important, il faut y songer. On n'a pas le droit de ne pas y songer. Ça fait partie de problèmes politiques au plan humain. Vous voyez ? Alors, la vie religieuse n'est ni européenne, ni asiatique, ni africaine. Elle provient de Marie. Et Marie n'est pas européenne. Elle est immaculée. C'est peut-être une raison pour laquelle Marie est immaculée. C'est qu'elle est même au-delà de la tradition juive, ainsi que le Christ. Au-delà. Parce qu'il y a aussi un droit des gens, du peuple d'Israël. Mais ce droit des gens est né avec les ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, avec Moïse. Le droit des gens en Israël, c'est la loi de Moïse. Ah, et ça vient d'en haut, pas d'en bas. Mais il y a eu des tas de choses qui se sont liées avec la tradition et qui sont caractéristiques d'un peuple. Comme pour l'Europe, il y a des tas de choses qui sont... Je crois qu'il y a quelque chose de très très curieux mais qui serait très intéressant à étudier, au moins d'y réfléchir. L'analogue, faire une analogie entre le peuple d'Israël et l'Europe. L'Europe, c'est pour l'Église, c'est bien évident. C'est peut-être pour ça, du reste, qu'on a quitté, Pierre a quitté Jérusalem pour aller à Rome. L'Europe ne serait jamais née s'il serait resté à Jérusalem. Il y a une analogie entre l'Europe et le peuple d'Israël. L'Europe est née à partir du christianisme. Mais on ne peut pas dire que l'Europe a gardé la pureté du christianisme. Le peuple d'Israël est né à partir de Moïse et des patriarches. Il n'a pas gardé entièrement la pureté. Alors il faut discerner ce qui vient de la révélation et de la tradition authentique des prophètes et ce qui s'est ajouté. Vous voyez, quand on voit, quand le peuple d'Israël réclame d'avoir un roi et que Samuel dit « Ah non, 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 non !» Le peuple d'Israël lorgne à côté des autres. Ils sont des rois, on doit en avoir. Est-ce que ça fait partie de la pureté d'Israël? Tu as accepté, donc la royauté fait partie d'Israël. Mais c'est un exemple typique qui nous fait comprendre comment on lorgne à côté. L'Europe a lorgné sur des tas de choses hein, et les a mis dans ce patrimoine européen qui n'est plus un patrimoine entièrement chrétien. Alors voyez, tous ces problèmes du droit, je crois que c'est très très important pour nous à y réfléchir. Parce qu'il y a le droit des gentils, des gens. Le droit, gentium, le droit des gens. Le patrimoine d'un pays, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comprenons bien au plan philosophique que la notion de droit est analogique. Et qu'elle nous fait comprendre que la vertu de justice a quelque chose d'universel, très particulier, et qui d'une certaine manière va se retrouver dans l'exercice de toutes les vertus cardinales. Alors il y a deux aspects qui unifient les vertus cardinales. La prudence.